sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Monsieur le président de la Fondation européenne pour le patrimoine alimentaire. Monsieur le président de l'Institut de l'histoire et des cultures de l'alimentation. Monsieur le président de Relais et Châteaux. Mon cher confrère, qui est le président du jury.
De la Fondation.
Chers lauréats, mesdames, messieurs, l'année dernière, nous vous recevions dans la salle des cinq académies. Et est-ce qu'elle est apparue trop petite pour accueillir cette grande manifestation ? Et malgré son nom, c'est en effet une salle qui n'est pas très vaste, mais surtout, elle n'est plus disponible parce qu'on y fait des travaux. Et donc, c'est un grand plaisir, et je me réjouis beaucoup de vous accueillir dans cette grande salle des séances, et je remercie l'Académie des sciences morales et politiques, dont c'est le jour aujourd'hui, le lundi, d'avoir accepté que cette cérémonie se déroule dans ce qui est aujourd'hui sa salle, grande salle des séances. C'est donc aujourd'hui le jour pour que nous tenions cette deuxième cérémonie de remise du Grand Prix François Rabelais. C'est un bel écrin, en effet, pour une pareille cérémonie. Comment l'appeler autrement ? Une marmite ? Non, peut-être pas. Un four non plus. En tout cas, une belle boîte. Pour un prix célébrant les arts culinaires et le patrimoine culturel alimentaire. Et, chers lauréats, nous bouillonnons d'impatience d'en savoir davantage sur vous-même et vos travaux. Mais dans cette salle où nous sommes entourés de nos grands anciens, permettez-moi de me tourner vers eux. Et peut-être d'abord en face de nous, Molière, qui se trouve là, comme vous pouvez l'imaginer, par accro, parce qu'il n'a jamais été élu dans une académie. Parce qu'il était comédien, tout simplement. Et nous avons toujours dit depuis, Molière nous manque. Et c'est la raison pour laquelle, à une date récente, son buste en pied est venu là, en face de la tribune. Et peut-être ce soir sera-t-il notre, d'une certaine manière, notre amphitryon. Mais alors je peux me tourner peut-être plus sérieusement et prendre pour témoin de mes propos Pierre Corneille, qui siège derrière nous, à la meilleure place, et en arrière de la tribune. Il a été élu en 1647 au fauteuil 14 de l'Académie française, fauteuil qu'occupe actuellement Mme Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Alors Corneille, dont la plus célèbre pièce, Le Cid, était jouée pour la première fois en 1637, c'est-à-dire presque au moment de la création de l'Académie française, mais qui a immédiatement donné lieu à une polémique d'une violence extrême, dont la raison n'était pas tellement que la pièce était bonne ou pas bonne, ça a été le sujet de la polémique, mais c'était tout simplement que Richelieu, le protecteur de l'Académie, trouvait que la pièce était trop favorable à l'Espagne et que ça ne coïncidait pas avec ses visées de politique étrangère. Corneille, dont on peut se demander si il aurait pris pour cuisinier au mariage de Rodrigue et de Chimène le lauréat que nous récompensons aujourd'hui, tant ces lauriers étaient eux-mêmes nombreux. Alors, cher lauréat, est-ce que vous auriez préparé avec satisfaction un repas de noces aux deux principaux personnages du chef-d'œuvre de Corneille ? Alors, ils en auraient été comblés, évidemment. Et le temps qui passe devrait-il nous empêcher de faire se rencontrer des gens d'époques différentes, de laisser libre cours à notre imagination ? Et c'est là que nous rencontrons François Rabelais, auteur de romans, Et cette approche de l'existence est une manière de l'existence sans fixation dans le temps, est une manière de rendre hommage à François Rabelais, que nous pouvons considérer comme le père du roman moderne. Et soyez certains que sans se faire prier, Pantagruel, le roi des Dipsodes, et son père, le grand géant Gargantua, se seraient volontiers joints à nous, fût-ce à Eugénie Les Bains. Et en la personne de l'historien Massimo Montanari, l'année dernière, nous récompensions un spécialiste de l'histoire de l'alimentation universitaire. Cette année, c'est un cuisinier qui l'emporte, mais un virtuose de son art, un créateur, et soucieux de transmettre son savoir-faire, donc un professeur, bientôt un universitaire, et peut-être encore bientôt aussi un académicien, pourquoi pas, il y aura bien des chefs membres de l'académie un jour, en tout cas ici nous pouvons le souhaiter. Et donc je suis particulièrement heureux de savoir qu'en 2 ans seulement d'existence, le prix François Rabelais a déjà mis à l'honneur les sciences et les arts. L'Institut a été, dès sa création, voué aux sciences et aux arts. Et donc je veux remercier chacun des membres du jury qui, en plus de leur implication personnelle au succès de ce prix, accordent une attention aux vœux de nos fondateurs. La Fondation européenne pour le patrimoine alimentaire, qui a lancé le prix François Rabelais l'an dernier, à l'occasion de son 10e anniversaire, trouve ainsi pleinement sa place au sein de notre institution. Créée pour aider l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation, l'IEHCA, certains le prononcent plus rapidement que cela, comme une sorte de cri, dans l'accomplissement de ses missions de concourir à la reconnaissance de l'histoire de l'alimentation. Elle est une fondation atypique parmi celles que nous abritons ici, mais précieuse et méritante. L'alimentation, indissociable de notre existence, peut-être encore plus pour nous, Français, méritait en effet qu'on lui consacrât une fondation. Et je citerai Rabelais dans Gargantua. Le grand Dieu fit les planètes, nous faisons les plats nets. Nous comprenons bien ici que manger nous appartient finalement beaucoup plus à notre époque que l'espace interstellaire, qui n'appartient pas encore à notre époque. Gageons que le projet de la Fondation européenne pour le patrimoine alimentaire de valoriser l'approche culturelle et historique de l'alimentation rayonnera davantage d'année en année au fur et à mesure que se développera son action et se constituera un réseau d'anciens lauréats, universitaires, professeurs, maîtres, chefs et bientôt académiciens. Soyez assurés que l'Institut est heureux de pouvoir contribuer au succès de cette entreprise et je tiens à remercier chacun d'entre vous d'être venus si nombreux entourer notre lauréat en souhaitant, comme l'année dernière, que vous ayez un jour prochain l'occasion de dévorer ses œuvres.
Faut appuyer sur le bouton. Monsieur le chancelier de l'Institut, monsieur le président de la Fondation européenne pour le patrimoine alimentaire, mon cher Jean Robert, Monsieur le Président de Relais et Château, chers amis, je tiens, au nom de l'IEHCA, à vous remercier d'être venus aussi nombreux accueillir Michel Guérard et l'entourer pour la remise, comme vient de le dire le chancelier de l'Institut, de ce 2e prix François Rabelais. L'IEHCA et la Fondation européenne pour le patrimoine, la Fondation européenne pour le patrimoine alimentaire, depuis un peu plus de 10 ans maintenant, travaille pour faire reconnaître l'alimentation comme une culture, comme un élément du patrimoine culturel des peuples. C'est un combat que nous menons sans relâche depuis 10 ans, que nous essayons de faire dans sous différentes formes. C'est ainsi que l'IEHCA avait été à l'origine du projet de classement du repas gastronomique des Français sur la liste immatérielle de l'UNESCO. C'est ainsi que nous organisons régulièrement des rencontres, et Michel Guérard nous avait fait le plaisir de présider une de ces rencontres François Rabelais qui se déroule tous les ans au mois de novembre à Tours pour faire se rencontrer l'ensemble des acteurs de l'alimentation. C'est ainsi qu'il y a 15 jours, l'université François Rabelais de Tours a remis 4 doctorats honoris causa à 4 chefs étrangers pour la première fois en France, faisant reconnaître que le fait alimentaire était également un fait scientifique et culturel, comme vient de le rappeler le chancelier, et cette remise de doctorat honoris causa l'illustrait fortement. Et ce soir, Michel Guérard, en vous remettant ce prix de notre fondation dans ces locaux qui sont, si j'ose dire, des temples de la culture, nous faisons rentrer la gastronomie, vous faites rentrer la gastronomie française dans la culture, dans le patrimoine culturel. Et ça fait partie des choses auxquelles nous sommes attachés. C'est la raison pour laquelle nous avions fondé ce prix l'année dernière à l'occasion de nos 10 ans. Et nous sommes extrêmement heureux et honorés que vous soyez le 2e récipiendaire et que vous ayez accepté de l'être et que vous soyez venu ce soir pour le recevoir. C'est pour nous un signe de reconnaissance du travail mené par l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation et sa fondation. C'est pour nous une façon de faire avancer une idée qui nous tient fortement à cœur, et je suis ravi, monsieur le chancelier, de ce que vous avez dit des académies. Le moyen de faire reconnaître cela, c'est effectivement qu'un jour, peut-être, un académicien soit un chef et puisse siéger sous la coupole à ce titre. C'est que la culture de l'alimentation soit enseignée à l'université, dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles, en tant que telle, et qu'on le reconnaisse très fortement que l'alimentation fait partie de notre patrimoine, au même titre que la littérature dont vous venez de nous citer 2 illustres représentants, que la musique, que la sculpture. La cuisine est également un art et n'est pas un art mineur, pensons-nous. Et de remettre ce prix ce soir à Michel Guérard est un moyen de l'affirmer très fortement. C'est pourquoi nous nous réjouissons de ce prix. Nous nous réjouissons que le jury auquel j'ai l'honneur de participer et pu vous choisir à l'unanimité sans aucune discussion. C'était une évidence pour nous que vous étiez digne de ce prix. Et donc, merci beaucoup de votre présence ce soir. Je suis très heureux de vous recevoir parmi nous.
La parole est à monsieur Gombert, le nouveau président des Relais et Châteaux.
Que nous félicitons. Monsieur le chancelier de l'Institut, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, cher Michel, chers amis, je ne pouvais rêver d'un pareil lieu comme premier acte de prise officielle de parole après avoir été élu voici juste 8 jours à Berlin comme à la présidence internationale de Relais et Châteaux. En effet, en qualité d'avocat, j'ai été associé durant près de 20 ans au bâtonnier Albert Brunois, qui fut membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Ces lieux m'étaient alors familiers. Ma vie s'est orientée ensuite vers l'hôtellerie, pour corroborer l'adage selon lequel le barreau mène à tout, à condition d'en sortir. Je suis particulièrement heureux de retrouver ces lieux aujourd'hui pour célébrer l'un de nos membres les plus éminents, dont je m'honore aussi d'être l'ami. Relais et Châteaux est très heureux de s'associer à l'Institut européen de l'histoire et des cultures de l'alimentation pour décerner le prix François Rabelais 2013 qui distingue l'œuvre d'une personne au service de la mise en valeur du patrimoine culturel alimentaire en France ou dans le monde. Qui pouvait mieux que le récipiendaire prétendent à une telle distinction? Michel Guérard, 30 ans après avoir fait la une du Time Magazine, vous récidiviez avec Le Monde 2 en pleine fête de fin d'année le 30 décembre 2006, Le magazine hebdomadaire du Monde publiait à la une votre photo en pleine page avec ce titre « L'empereur de la cuisine minceur ». C'était bien vu, Michel, car non content d'être un phare pour l'ensemble de la confrérie des chefs en France ou dans le monde, il est vrai que vous êtes bien plus que cela, vous êtes assurément un empereur. Préparant mon intervention de ce soir, j'ai retrouvé dans ma bibliothèque un de ces livres précieux, chargés d'enseignements et d'histoire, que j'affectionne particulièrement. Il s'agit d'une édition de 1762 du célèbre gastronome Menon, intitulé « La cuisinière bourgeoise » et ainsi préfacé. On a imprimé depuis peu plusieurs livres sur la cuisine ou l'art de préparer les aliments. Mais il semble que leurs auteurs, faisant peu de cas de la santé des hommes, se soient bornés à flatter leurs sens. Et cet art destructeur est le fruit dangereux d'un luxe effréné. Si la nature, en nous portant à prendre des aliments, n'a eu pour but que notre conservation, quel cas doit-on faire d'une infinité de préparations et de ragoûts à la mode qui portent le feu et le ravage dans l'intérieur de nos corps ? La cuisine n'est autre chose que l'art d'employer les productions de la nature pour en préparer une nourriture saine et agréable à l'homme. Voilà ce que je n'ai pas perdu de vue en composant le livre de la cuisinière bourgeoise. Je me suis attaché à éviter la dépense, à simplifier la méthode et à réduire en quelque sorte au niveau des cuisines bourgeoises ce qui semblait n'être fait que pour les cuisines opulentes. Si le goût y perd quelque chose, la santé y gagnera. Voici, cher Michel des Préceptes, qui, 3 siècles et demi plus tard, n'ont perdu aucune de leur actualité et qui démontrent bien le caractère universel de la cuisine française. Ce caractère universel du repas gastronomique des Français que l'UNESCO a précisément inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité. Grâce à l'action déterminée de M. Jean-Robert Pitt, que je salue ici, grâce aussi à l'appel que vous avez lancé à Séville avec tous les chefs relais et châteaux. Mais revenons à vous, cher Michel. Meilleur ouvrier de France à l'âge de 25 ans. En 1968, quand d'autres faisaient la révolution, vous faisiez la vôtre. Au Pot-au-feu à Nières, vous entriez dans la famille des relais et châteaux avec votre premier restaurant, rapidement doublement étoilé au Guide Michelin. Vous deveniez aussitôt la coqueluche du tout Paris. Vous alliez révolutionner la cuisine française légèrement endormie. Comme la nouvelle vague au cinéma, vous êtes l'un des pionniers de la nouvelle cuisine au début des années 70. L'amour pour votre chère épouse Christine vous convainc de quitter Paris pour la petite station thermale de Genis-les-Bains dans les Landes, qui deviendra grâce à vous deux le fleuron de la chaîne thermale du Soleil. En 1974, vous mettez fin à la désespérance alimentaire des curistes venus soigner là l'obésité, le diabète ou les maladies cardiovasculaires en inventant la cuisine minceur. Fini les carottes râpées mal assaisonnées, à eux désormais les coulis coulants, les vinaigrettes essentielles, le tiramisu de tomates et chèvres frais au basilic, 75 calories, la nage de Saint-Jacques à la cardamone, 120 calories, la brandade de morue fraîche au chou-fleur, 155 calories, et pour les jours de fête, le célèbre Paris-Brest au café, 185 calories. Vous voulez réconcilier savoureusement cuisine, santé et plaisir. Durant 27 ans, vous allez participer à la recherche alimentaire en devenant conseil culinaire international de la première entreprise agroalimentaire du monde, le groupe Nestlé. Et en ce bel automne, vous venez d'ouvrir la première école de cuisine de santé d'un nom qui sonne bien dans cette maison puisqu'il s'agit de l'Institut Michel Guérard. Pour notre seul plaisir, n'oublions pas la poésie de votre belle carte triplement étoilée depuis 1977. Je ne résiste pas à l'envie de citer quelques plats. Le homard ivre des pêcheurs de lune en carpaccio nacré.
l'oreiller moelleux de mousserons et de morilles aux fumées de truffes, la belle volaille dorée des Landes en entrée de broche, petite rate au suc de citronnelle, le gâteau mollet du marquis de Béchamel et la glace fondue à la rhubarbe, compromis sensuel, dites-vous, entre soufflé et crème renversée. Sans parler de la cuisine de jardin et de terroir de votre belle ferme aux Grives. Ce prix François Rabelais honore l'œuvre d'une vie, la vôtre. Les accomplissements de votre passion, de votre curiosité toujours en éveil, les fulgurances de votre art culinaire, ce prix distingue aussi le service rendu. Un dévouement de tous les instants à tous ceux qui, comme nous ici ce soir, partageons l'amour de notre patrimoine gastronomique. Un exemple pour plusieurs générations de chefs tout autour du monde qui se réclament de vous. Un exemple aussi pour vos deux filles, tendrement chérie, Éléonore et Adeline. Éléonore qui vient d'être élue au conseil d'administration de Relais et Châteaux, incarnant la troisième génération de votre famille à y siéger. Ce prix, créé par l'Institut européen de l'histoire et des cultures de l'alimentation, a été doté par Relais et Châteaux. Relais et Châteaux, répartis sur les 5 continents, dans plus de 64 pays, nos 520 hôtels de charme et restaurants gastronomiques représentent le plus grand réseau de chefs étoilés au monde. Mais à côté de ces tables d'exception, Relais et Châteaux entend promouvoir l'ensemble des cuisines du monde, faites d'authenticité, respectueuses des produits, des saisons, comme de l'environnement. Une cuisine saine qui sublime les produits et que vient magnifier le savoir-faire unique de nos chefs et de nos chefs pâtissiers, véritables virtuoses du chef, du geste, souvent artistes, tous artisans. Je souhaiterais terminer mon propos, cher Michel, en citant Olivier Rollinger, ici présent, vice-président de Relais et Châteaux, en charge de nos tables. Je le cite, Olivier. « L'accueil, le service, la cuisine et les vins doivent être en parfaite cohérence et harmonie avec une nature, un lieu, une maison et une histoire passionnelle. La cuisine Relais et Châteaux doit être, quel que soit l'endroit de la planète, l'expression d'un environnement naturel, culturel et affectif. » Autour de ces tables Relais et Châteaux, de la plus simple à la plus sophistiquée, de la plus traditionnelle à la plus créative, la sincérité des hommes et des femmes qui les animent doit rester la règle d'or. Cher Michel, cette sincérité a toujours été au cœur de votre vie. C'est pourquoi nous sommes particulièrement heureux et fiers de vous voir attribuer ce soir un prix aussi mérité. Je vous remercie.
Monsieur le Président de la Fondation européenne pour le patrimoine alimentaire va décerner le prix.
Merci Monsieur le Chancelier, Monsieur le Président de l'Académie des sciences morales et politiques, mes chers confrères qui avaient tenu à rester après notre séance de cet après-midi, en l'attente des merveilles que vous allez entendre de la bouche de Michel Guérard, Monsieur le Président des Relais Châteaux, cher Michel, chère Christine, chers amis, c'est avec émotion et beaucoup de joie qu'il me revient ce soir de vous dire pourquoi, cher Michel, la Fondation européenne pour le patrimoine alimentaire vous remet ce soir le prix Rabelais, même si tout a été déjà dit par mes prédécesseurs. Vous en êtes donc le deuxième récipiendaire après Massimo Montanari, grand historien bolognais, Belleville, Bologna la Grassa, de l'alimentation au Moyen-Âge. La Fondation, abritée par l'Institut de France, porte une institution à laquelle je veux d'abord rendre hommage, l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation, qui a son siège à Tours. Son fondateur est ici, c'est Francis Chevrier, qui est parmi nous, et qui en est toujours le directeur, que je dirais, imaginatif et efficace. Son président, Marc de Ferrière, est à nos côtés, et je le salue avec beaucoup d'amitié. Et c'est au sein de ce réseau international, qui est l'IEHCA, véritable tissu de complicité scientifique, mais aussi sympathique, qui a germé en 2006 l'idée de demander à l'UNESCO de reconnaître, au départ c'était la gastronomie française, c'est devenu le repas gastronomique des Français, comme faisant partie du patrimoine immatériel de l'humanité. Merci, cher Francis, d'avoir œuvré avec ténacité pour faire aboutir cette belle idée que vous avez appuyée, cher Michel, de toute votre autorité, au point même de proposer aux gourmets qui fréquentent votre table d'Eugénie-les-Bains un somptueux menu intitulé « Le repas gastronomique des Français ». Je présume que vous en attendez tous la lecture alléchante. Je ne vous décevrai pas et vous livre mon choix personnel effectué parmi les suggestions du printemps dernier, mais qui recoupe à peu près celle du président de Relais-Château. Mais enfin bon, je ne résiste pas au plaisir de vous relire ce choix. Donc pour moi, ce serait été l'oreiller moelleux de mousseron et asperges de pays, point, une symphonie imaginée au retour d'un voyage en Chine. Ensuite, la fine toastée de pieds de cochon, je crois que là on diffère un tout petit peu, la fine toastée de pieds de cochon, foie de canard et écrevisse, virgule, salade boucanée d'anguilles et de crème de persil, à l'anguille et crème de persil. Et puis enfin, et là nous convergeons de nouveau, le gâteau mollet du marquis de Béchamel et la glace fondue à la rhubarbe, mais vous n'avez pas lu le complément commenté par Michel Guérard, un compromis sensuel entre soufflé et crème renversée. C'est totalement renversant, n'est-ce pas? Et les murs de cette vénérable maison tremblent en écoutant cet énoncé. Et je dirais que, puisque vous avez évoqué Molière, monsieur le chancelier, que c'est autre chose que le menu parodique de l'avare, qu'on n'a vraiment pas envie de se mettre sous la dent, sauf si on a marché pendant des heures et des heures en montagne, et même s'il y a des marrons qui me sont très chers. Notre première rencontre, cher Michel, remonte à l'automne 1989, j'avais été chargé d'une enquête sur le goût des Français par le magazine Go et Mio. Et vous m'aviez très aimablement reçu, avenue de l'Opéra, à ce moment-là. Avec un peu d'insolence, due à mon jeune âge, j'avais émis devant vous quelques doutes sur l'intérêt de prêter votre nom et votre prestige déjà très grand, bien établi à cette époque, à un groupe géant de l'agroalimentaire qui vient d'être évoqué par le président des Relais Château. Et vous m'aviez alors gentiment demandé de me souvenir de la saveur des premières crèmes glacées industrielles, celles de mon enfance. Et ne cultivant aucun goût régressif pour leur fragrance, cherchant à imiter vainement celle de la fraise fraîche et pour leur grasse onctuosité sucrayonne, j'ai volontiers admis devant vous que vous aviez sans doute contribué à redresser la barre en travaillant avec les géants de l'agroalimentaire. Et grâce à vous et à plusieurs de vos confrères, un certain nombre d'aliments industriels sont aujourd'hui nettement plus savoureux et authentiques que naguère. Certes, ils sont toujours industriels, c'est-à-dire stéréotypés et de goût rigoureusement stable. Mais, heureusement, vous n'avez cessé, depuis vos premiers succès, d'encourager vos compatriotes à reprendre le chemin de leur cuisine, à se procurer des produits frais, de saison et sains, puis à les cuisiner eux-mêmes, de manière à mettre en valeur leur saveur propre, sans les noyer sous des accompagnements que je qualifierais de chichiteux, même si le mot n'est peut-être pas encore entré dans le dictionnaire de l'Académie française. Le même jour, donc toujours vers septembre 1989, je vous avais demandé comment on devient gourmand. Et vous m'aviez répondu dans un premier temps, tenez-vous, Éléonore, dans un premier temps que c'était génétique, comme la danse chez les Africains. J'avais noté cette phrase, en vous appuyant sur le fait qu'à l'époque, vos deux petites filles, Éléonore et Adeline, n'accordaient pas la même importance l'une que l'autre au contenu de leur assiette. Je ne sais pas quelle était qui accordait beaucoup d'importance et qui en accordait moins. Face à ma moue dubitative sur le caractère génétique de la gourmandise, le lendemain, vous étiez ravisé et vous m'aviez rappelé au téléphone en me disant qu'après mûre réflexion, peut-être Christine était-elle responsable aussi de cette modification de votre pensée, que l'éducation et les choix personnels sont bien plus importants que l'inné dans la naissance de la gourmandise chez un individu. Et c'est précisément la raison pour laquelle notre fondation a tenu à vous remettre son prix, à vous qui avez consacré votre vie à éduquer le goût de vos contemporains français et du monde entier. Le dernier en date de vos efforts en cette direction vient d'être rappelé, c'est la création, il y a quelques semaines, d'un institut qui porte votre nom et le sous-titre, le beau sous-titre, d'école de cuisine et santé. La formation étant destinée autant aux professionnels de l'agroalimentaire et de la cuisine qu'à ceux de la santé qui, hélas, pour qui la diététique relève trop souvent de la pénitence.
Sans dérouler la totalité de votre éblouissant parcours au service de vos contemporains et de la culture française, je rappellerai quand même brièvement les principales étapes. Vous descendez sur Terre en 1933, à Vétheuil, dans le Val-d'Oise, dans une famille d'éleveurs-bouchers ou de bouchers-éleveurs, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire, et donc d'une profession qui est à la source majeure d'une partie du repas gastronomique des Français. Vous passez, cela va de soi, par l'apprentissage, en pâtisserie d'abord, puis en cuisine, dans d'aussi belles maisons que le Crillon, que le Lido, mais oui, on ne fait pas que lever la jambe au Lido, et surtout le Camélia à Bougival, où vous secondez au début des années 60 le grand Jean de Lavenne, l'un des vrais pères de ce qui va s'appeler très vite la nouvelle cuisine. Mais il y en a des nouvelles cuisines depuis le Moyen-Âge, beaucoup de nouvelles cuisines se sont succédées, mais qui est surtout la haute cuisine française, allégée, plus respectueuse des saisons et de la saveur des produits, moins surcuite, plus adaptée au mode de vie sédentaire. Vous vous installez à votre compte en 1965 dans un méchant bistrot d'Asnières que vous baptisez le Pot-au-feu, et le tout Paris franchit alors le périphérique, qui n'est pas encore achevé, c'est donc encore la zone, pour venir non pas s'encanailler, mais se délecter chez vous de votre salade folle, de votre soupe d'écrevisse, de votre ragoût de nouilles aux truffes et bien entendu du plus délectable des Pot-au-feu qui soit. En 1974, vous épousez Christine, qui vous permet de vous installer dans un autre lieu situé au milieu de nulle part, comme disent les anglo-saxons, tombé dans la torpeur depuis l'exil de l'impératrice qui lui a donné son nom, Eugénie Les Bains. Nous savons tous que votre réussite est aussi celle de Christine, et vous conjuguez tous deux vos talents complémentaires, formant le plus merveilleux des duos au service de l'hospitalité et de la gastronomie. Ainsi, il va de soi que le prix Rabelais de cette année est autant destiné à honorer Christine que vous-même. Vous inventez à Eugénie, j'ouvre les guillemets, la grande cuisine minceur, qui est aussi le titre de votre premier livre, qui a rencontré un succès mondial. Et ce n'est plus le tout Paris, c'est la terre entière qui vient se délecter de votre velouté de champignons des bois, sans beurre ni crème, je n'ai pas le nombre de calories, de votre sauce béarnaise sans beurre, de vos œufs au plat à l'eau, de votre gâteau de riz de veau aux morilles, de vos sublimes oignons Tante Louise, ce que vous appelez, très jolie phrase de vous dans l'introduction de la grande cuisine minceur, une ronde allègre de repas de fête pour maigrir, parcourue de salades fraîches comme des rires d'enfants, de poissons brillants et lourds d'odeurs de pêche interdite, de volailles parfumées, celles des déjeuners sur l'herbe de mon enfance. Et l'enchantement dure depuis 40 ans. 40 ans, 4 décennies, au cours desquelles vous n'avez cessé de vous renouveler et de transmettre à de jeunes cuisiniers, de former des quantités de jeunes cuisiniers venus du monde entier. Eugénie Les Bains est devenue la garde Perpignan de la gastronomie. Si je vous dis que vous êtes un artiste, je suis certain que vous me corrigerez immédiatement en vous revendiquant simple artisan des saveurs. Je connais votre modestie qui n'est pas fausse. Mais si je vous dis que la cuisine ne fait pas partie des beaux-arts, vous allez être fâché. Et vous aurez raison. André Malraux appelait artiste celui qui crée des formes et artisan celui qui les reproduit. Et le Trésor de la langue française définit l'artiste comme, je cite, un artisan qui excelle dans son travail, qui a acquis une technique, une maîtrise d'exécution, un savoir-faire, qui lui permet de reproduire habilement un modèle ou même d'en inventer de nouveaux. Et je crois que vous avez reproduit beaucoup au début de votre carrière, comme tout jeune cuisinier, et vous êtes devenu un créateur, c'est-à-dire un artiste. Vous répondez pleinement à cette définition et vous êtes un très bon artisan devenu un grand artiste. Cette salle dans laquelle se réunissent les membres des académies qui constituent l'Institut de France accueille tous les mercredis, après-demain, l'Académie des Beaux-Arts. Et je forme le vœu, ici, ça a été déjà dit et je réfère aux paroles du chancelier, que cette Académie puisse un jour, peut-être une autre aussi, puisse un jour élire en son sein un ou plusieurs chefs, un ou plusieurs vignerons éclairés, que nous ayons un jour, puisque Molière n'était pas élu, mais est entré quand même sous une forme statifiée, peut-être Escoffier ou Carême, qui viennent embellir cette salle. Il y a encore des niches où on pourrait en créer d'autres, certainement. Vous terminiez notre entretien de l'automne 1989 en formulant à l'intention des Français la recommandation suivante. Il faut aussi faire la cuisine, même si ça n'est que le dimanche. Cela élève autant l'esprit que de jouer du piano. Et ce n'est pas par hasard si le fourneau sur lequel vous exercez vos talents porte le même nom que le bel instrument qui inspira tant Liszt, Chopin et bien d'autres musiciens. Et d'ailleurs, votre ami Christian Millau n'a-t-il pas écrit dans son dictionnaire amoureux de la gastronomie « La musique Guérard, c'est comme Mozart. Plus on l'écoute, plus on l'aime. » Merci de votre attention. Alors, je vais demander à Michel et à Christine aussi peut-être de venir ici. Donc, je vous remets le prix Rabelais.
Merci. Ouf. Alors, monsieur le chancelier, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, je tenais tout d'abord à vous remercier, bien sûr, pour l'honneur qui m'est fait d'être accueilli en ces murs illustres. Je sens derrière moi Corneille qui doit se rappeler les brèves études que j'ai faites en son lycée à Rouen. Alors que j'aurais préféré, à l'époque, être le serviteur de Molière. Je voudrais vous dire aussi ma surprise, c'est vrai, non feinte, de recevoir aujourd'hui le prix François Rabelais. Alors bien sûr, cette réjouissante nouvelle me comble de joie, bien évidemment, et j'en mesure tout le privilège. Une joie que je vais m'empresser de partager avec Christine, mon épouse, nos filles, notre famille, nos amis et vous tous, si vous le voulez bien. Après un salut et un clin d'œil complice au docteur François Rabelais, grand mangeur devant l'éternel, philosophe, conteur aux multiples talents, je voudrais vous livrer quelques propos choisis sur mon beau métier manuel, d'artiste manuel, disent certains, si proche, c'est vrai, de celui d'ébéniste, d'orfèvre, de couturier, de pianiste, de peintre, de sculpteur, de chirurgien aussi. Et pour ce faire, pardonnez-moi ce jeu de mots, je me suis cuisiné intensément en remontant à la source. 1939, vous avez rappelé la date de mon naissance, cher Jean-Robert, 1933, pardon. Donc 1939, j'avais 6 ans lorsque fut déclarée la Seconde Guerre mondiale. J'habitais alors en Normandie avec mes parents et mon frère, un petit bourg tout près duquel furent lancées les premières bombes volantes allemandes, les V1 et V2, et qui avaient pour les premiers cette particularité de n'atteindre que très rarement leur cible, l'Angleterre, pour cause d'explosion incontrôlée juste après leur lancement. C'est ainsi qu'un matin, au sortir d'une messe où je remplissais mes fonctions ecclésiastiques d'enfant de cœur, je fus violemment soufflé dans une bouche d'égout dont on ne m'extire pas d'ailleurs sans trop de dommages. En ces années-là, vraisemblablement protégés par une insouciance juvénile, nous autres enfants avions pris l'habitude de compagnonner avec la peur autant qu'avec la faim, ne sachant d'ailleurs plus très bien qui de la faim ou de la peur l'emportait, notre imagination nous permettant pour un temps d'échapper à la triste réalité. Je ne sais encore aujourd'hui si ma vocation de pâtissier puis de cuisinier a puisé ses origines dans cette désolante frustration alimentaire. Ce que je me rappelle en revanche, c'est l'habile manière dont ma grand-mère usait pour gouverner cette crise, instillant avec presque deux fois rien cette notion de gourmandise qui éloigne la sensation de rationnement au profit d'émotions de palais délicieuses et ponctuées d'interrogations et de curiosités. Ainsi, le sentiment de gourmandise dans le processus de la faim, bien qu'imparfaitement mais agréablement assouvi, change-t-il complètement la donne ? J'en fis bien plus tard le constat lorsque je me pris d'intérêt pour les régimes alimentaires contre lesquels se rebiffent, bien sûr, ceux qui en font l'objet. Il est vrai que pour le Français qui entretient avec son alimentation des rapports de vieux couple, manger est l'une des manières les plus immédiates de se faire plaisir. Ce plaisir de table considéré par lui quasiment comme un bien social acquis et irréversible. Il est intraitable à ce propos. Il ne veut pas avoir à choisir entre la santé et le plaisir. Il veut les deux à la fois. En conséquence, qu'elle soit classique ou nouvelle, moléculaire ou de fusion, de terroir ou de bistrot, de palace ou plus simplement hospitalière, la ligne de force de la cuisine est le goût et son corollaire immédiat, le plaisir. Ce que traduisait d'ailleurs à sa manière en une parfaite rhétorique mon maître d'apprentissage. « Tu vois, mon garçon, me disait-il, un plat réussi, c'est une assiette nickel-chrome saucée jusqu'à la corde à grands coups de pain de campagne. » Je dirais d'une manière moins prosaïque qu'un plat réussi, ça peut être aussi un moment de grâce et d'équilibre né de la pensée et de la main de l'homme. 1944, j'ai 11 ans, alors j'exulte avec mes copains dans l'allégresse du débarquement. Par un étrange jeu du sort, j'aurais, en l'espace de quelques courtes années, connu simultanément les affres de la faim et l'épilogue d'une diète forcée. Un moment charnière où le spectre de la privation s'estompe déjà, faisant place à l'arrivée d'étranges produits immigrés dont on est alors loin de soupçonner l'impact qu'ils auraient plus tard sur notre société et sa santé. J'ai encore en mémoire l'intense choc gustatif de mon premier Coca-Cola que venait fraternellement de m'offrir un GI, suivi d'une confiserie en forme de barre chocolatée fourrée d'un affolant caramel à se damner et qui m'aurait vite rendu addict si je n'y avais pris garde. Ainsi, en même temps qu'il nous libérait du joug ennemi, nos amis américains nous enchaînaient subrepticement dans les volutes enjôleuses d'une alimentation qualifiée plus tard d'hérétique par certains nutritionnistes et avec pour appât majeur la puissante force de séduction que sont le gras et le sucre, plus diabolique encore bien sûr quand ils sont réunis. Une mondialisation alimentaire se dessinait déjà sournoisement, marquée au sceau d'intérêt économique, prête à enjamber allègrement et sans scrupule aucun culture et tradition. Bon, le mal est là aujourd'hui, bien enraciné, alimenté par une guerre de tranchées des produits et des prix à la consommation. Pour autant, n'attendez pas de moi un quelconque réquisitoire à l'encontre des fast-foods et autres chaînes de restauration rapide, coupables emblématiques d'un désastre métabolique, certes, mais investi aussi d'une fonction sociale organique, celle d'offrir, pour une somme modique, un repas chaud décent au petit budget. Non, ce par contre à quoi je ne peux me résoudre, c'est leur constant déséquilibre nutritionnel et la bérésina métabolique qu'ils génèrent lentement. Alors je rêverais avec le concours de quelques amis cuisiniers du monde entier, dont les talents et ceux du cœur en particulier sont grands, de fomenter une sorte d'armée du salut de la saucisse et du hamburger, pour non pas combattre, mais aider les protagonistes de ce fléau pernicieux à s'inscrire dans une nouvelle ligne de conduite, persuader l'industrie agroalimentaire, au demeurant parfaitement professionnelle et responsable, de booster ses idées et l'assister dans la mise en place créative d'une production culinaire santé en série au service de la collectivité. N'est-ce pas d'ailleurs quelque part la mission du cuisinier que d'apporter ses talents de compositeur à des situations alimentaires critiques, que de s'impliquer dans le cadre d'une nouvelle démarche socio-culturelle, mais aussi économico-sanitaire, dans la réhabilitation et l'ajustement d'une cuisine populaire mieux équilibrée. À ce propos, je me suis toujours demandé comment nous autres Français n'avons pu ni su créer un fast-food équilibré. Aussi craquant et ludique que, par exemple, la pizza de nos souriants amis italiens, judicieux inventeurs d'ailleurs par ailleurs de la géométrie des goûts à travers leurs pâtes aux formes plurielles. Alors, sommes-nous à ce point en disette d'idées novatrices et concrètes, ou restons-nous immodestement sur nos lauriers au prétexte d'avoir été, voilà plus de deux siècles, les inventeurs du restaurant, ce nouveau théâtre culinaire qui, au sortir de la Révolution, propose à tout public une cuisine d'esprit née dans les hôtels particuliers de la noblesse et de la finance et conduisant le cuisinier, soudain privé de mécène, bien évidemment, à devoir assurer seul l'essor de son commerce dans un nouveau processus d'innovation permanente. Un cuisinier artiste, endossant pour la première fois l'habit d'entrepreneur, optant pour une pratique moderne de son métier, fait d'élégantes symbioses entre poésie et science, imagination et technique, surfant avec insolence sur les vagues du cosmopolitisme, pénétré, tel son illustre aïeul Taïwan, par ce désir d'exprimer sa sensibilité, d'émouvoir pour séduire et exister, rejoignant en cela Claude Monet, qui définissait l'art comme une partie de la création vue à travers un tempérament. À propos d'art, Voltaire, gastronome à 16 heures, provocateur à plein temps, s'étonnait du rôle subalterne laissé à ce métier, déclarant que le bon goût, en fait de cuisine, se définissait selon des critères analogues à ceux qui définissent le bon goût artistique et littéraire. Un bon goût nourri au suc de la liberté d'expression par une longue lignée de maîtres-queux qui ont depuis patiemment façonné cette œuvre de civilisation qu'est la grande cuisine française. Une liberté qui induit aussi les modes auxquels elle n'a jamais tenté de se soustraire, même si parfois le passé mélancolique grince des dents, regrettant pêle-mêle que certaines cuisines régionales rougissent désormais de fleurer l'ail et le jambon rance, et déplorant en même temps les excès de sophistication pour précieuses ridicules en représentation. Mais n'est-ce pas là l'inéluctable tribut à payer à la mode ? L'art, disait par ailleurs La Bruyère, gâte quelquefois la nature en cherchant à la perfectionner. La simplicité n'est-elle pas en effet la signature de la perfection ? Cette simplicité, que l'on retrouve d'ailleurs tout bonnement dans les trois fondements de la cuisine, que sont le produit, la cuisson, l'assaisonnement. Un produit brut de bonté, objet inachevé, que le cuisinier doit lentement polir pour le conduire à son zénith culinaire, à travers le savoir-faire et la sensibilité qui lui sont propres, le tout travaillé dans le total respect de sa veine originelle, équivaut à un rang, un poulet ou une sardine de ne pas être mort pour rien. Une cuisson. Cuire au doigt et à l'œil. Cet art du feu fait d'instinct, de subtilité, autant que de précision et que certains reçoivent en don. Enfin, l'assaisonnement, la partie musicale de l'exercice, un peu comme la bande sonore d'un film qui fait vibrer d'émotion le récit. Tel Mozart qui se plaisait à écrire sa musique avec des notes qui s'aiment, le cuisinier doit faire de même tout naturellement avec les saveurs. Trois éléments donc qui ne sauraient pour autant se satisfaire de la seule technique pour les orchestrer, car il ne suffit pas de maîtriser l'orthographe, il faut aussi distiller la poésie. Et il n'y a qu'un souffle entre le rêve d'un mets et le geste qui lui donne vie. En cuisine, la main, symbole d'habileté, est un peu la baguette magique du rêve. Cette main égale et rivale de sa pensée, l'une n'est rien sans l'autre, disait Paul Valéry. Ainsi, le cuisinier est-il au sommet de son art lorsqu'après avoir cessé d'emprunter la pensée des autres, patiemment modelé en toute liberté les contours de sa propre singularité, appris à rêver en solo l'âme et l'esprit de sa cuisine, bref, s'est affranchi de toute mode, il devient alors et enfin son propre classique. Il peut dès lors s'inscrire dans cette flamboyante saga de la cuisine française, une cuisine bon enfant par atavisme, délibérément altruiste, ne dédaignant pas d'être fortement chahutée, elle qui n'a jamais cessé d'instruire et de prodiguer son savoir à travers le monde, récoltant en retour, en même temps que d'indéfectibles amis complices voués à la même cause, une partie des moissons qu'elle a semées, annexant ainsi à son propre patrimoine des recettes exotiques réécrites, porteuses à la fois de l'ADN de leurs géniteurs et de la griffe de leurs interprètes. Et c'est vrai qu'en cuisine, l'identité, c'est aussi l'accueil et l'intégration de ce qui vient d'ailleurs. Alors une cuisine française, à la santé de fer, taillée en pointe de diamant, plus jeune que jamais, de cœur et d'esprit, jamais en retard d'un rêve ni d'un défi, aussi sensuelle que sentimentale, continuant de boire à la coupe de sa longue histoire. Elle respire, libre, s'amuse, chante et enchante, s'énivre, réfléchit, innove, et pure, voltige, dérange. S'accrochant aux hanches d'une modernité intemporelle, s'étourdissant comme une adolescente insouciante dans une danse sacrée qui dure, pour notre plus grand plaisir, depuis des siècles déjà. Merci.